Adjiré, Père Philippe, 5 janvier 1984, Saint-Jean.
Je lis tout de suite les questions posées afin d'expliquer l'irréductibilité du choix de l'ami et de l'intention qui porte sur l'ami. Ne faut-il pas préciser que l'on choisit l'ami entre plusieurs? En effet, le choix semble bien avoir comme caractéristique de sélectionner entre plusieurs tels biens. Oui et non, ce n'est pas nécessaire que ce soit explicité. Vous choisissez quelqu'un, même si de fait il n'y en a pas plusieurs. Vous dites « je te choisis ». Donc ce n'est pas, c'est un argument, c'est un aspect matériel qui met en valeur, mais qui n'est pas spécifique. Choisir quelqu'un n'est pas nécessairement le choisir entre plusieurs. Parce qu'alors il faudrait toujours, hein, vous voyez bien, qu'il y en ait plusieurs. Avant de te choisir, écoute, je vais voir. Hein. De fait, c'est très vrai qu'il y a toujours une expérience multiple, mais ce n'est pas ce qui caractérise le choix. De sorte que quand on dit psychologiquement c'est vrai et pas philosophiquement, c'est ça qui serait intéressant à dire. Psychologiquement c'est vrai qu'on dit que le caractérisme, c'est toujours comme caractéristique de sélectionner entre plusieurs tels biens. Je crois que c'est vrai. Pour les petits gâteaux c'est très vrai. Pour les petits bonbons, les petits chocolats c'est très vrai. Mais pas pour le choix pris philosophiquement. Donc psychologiquement c'est vrai. Vous aimez de choisir, plus il y a une quantité de possibilités de choix. Et donc les possibilités de choix sont là pour multiplier votre sélection que vous ferez. Mais ce n'est pas ça qui fait la qualité du choix. Vous choisissez quelqu'un d'une façon unique et vous pouvez dire, mais même s'il y en a des quantités d'autres, je le choisis. Mais autrement, vous voyez, le choix porte toujours avec une espèce de... Vous louchez tout le temps. Et jusqu'au dernier moment, vous louchez. Psychologiquement, c'est souvent ce qui arrive. Mais ce n'est pas vrai philosophiquement. Ce n'est pas ça qui caractérise le choix. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très bien de le dire. Je suis tout à fait d'accord, c'est très bien de le dire. Mais ce n'est pas cela qui caractérise le choix. Ainsi, ceci expliquerait qu'on ait deux modalités d'acte libre. Au niveau de l'intention, comme une option entre acceptation et refuser l'attraction d'un bien spirituel. Ça, c'est très vrai. Au point de vue de l'intention, c'est le fait d'accepter ce bien ou de le refuser. Au niveau du choix, où l'ami n'est plus considéré comme un absolu, mais en tant qu'individu, pas sûr du tout. Moi, je ne dis pas du tout que je choisis un individu. Je choisis un ami. Et le choix n'est pas l'individu, je regrette. Hein. Il est possible, il possède un certain caractère relatif. Mais alors, à ce moment-là, vous relativisez l'ami comme un moyen. Et donc, c'est plus ça. C'est justement ça qu'on avait essayé de comprendre. C'est que dans le choix de l'ami, on rejoint l'intention. Ce qui est très particulier. Tandis que là, vous le remettez au niveau de l'individu, et donc perdu dans la masse, et il devient relatif. Ainsi, en le choisissant pour être ma fin, je lui donne une détermination nouvelle. Il faut accepter que le choix peut être quelque chose de préférentiel. Vous voyez, quand je dis préférentiel, je ne dis pas nécessairement qu'il y a un regard par rapport au multiple. C'est-à-dire, je le choisis. Et au-dedans de moi-même, je le choisis entre 10 000, entre 100 000, ça n'a pas d'importance. C'est secondaire, ça. Je le choisis. Et je mets tout le poids là-dessus. Alors, psychologiquement, je suis d'accord, hein, que le point de vue... mais ce n'est pas quand même tout à fait ce qui montrerait les deux aspects, les deux modalités de l'acte libre. Les deux modalités de l'acte libre, c'est par rapport à l'amour. Cet amour s'impose, mais je peux l'accepter ou pas l'accepter. Tandis que vous ne direz jamais à l'égard d'un choix, ce choix s'impose. Ça, c'est autre chose. Mais c'est là où il y a quelque chose de différent. À l'intérieur du passage de l'amour à l'intention et de l'intention au choix. Donc, reprenons ça, ça vaut la peine parce que c'est quelque chose de très important et qui est difficile. C'est très difficile. Tout cela était pour essayer de comprendre le caractère de la prudence. Ne l'oubliez pas, parce qu'on ne va pas retourner en arrière sur des choses qu'on avait déjà vues. C'était d'essayer de comprendre le point de vue prudentiel. Et j'essayais de saisir si la prudence regarde l'amour premier, l'amour qui s'impose à moi, à l'égard d'un bien spirituel. La prudence va permettre à cet amour de devenir une intention de vie. Et ce bien devient ma fin. Et la prudence va jouer au niveau du choix. Alors, vous vous souvenez le problème qu'on avait posé, parce que je crois que c'est important. Là, on prend un peu le problème d'une façon différente. Et c'est peut-être à cause de ça que certaines choses ne sont pas tout à fait saisies. Je partais de la prudence et j'essayais de montrer comment la prudence joue au niveau de l'intention et au niveau du choix. Au niveau de l'impérialité. Et je le montrais au point de vue de la prudence à l'égard du choix d'un ami. Donc la fin. Qui est mon bien. Qui est mon bien. Et qui est une intention de vie. Puisque l'ami, c'est vraiment la fin. C'est mon bien, c'est ma fin. Et en même temps, il est l'objet d'un choix. Alors, j'avais dit cette chose qui me semble intéressante à souligner, difficile mais intéressante à souligner. Quand saint Thomas traite de la prudence, il montre que toujours la prudence porte sur le choix et l'impérium. Sur le conseil en vue du choix. On demande conseil à un homme prudent. Et à cause de ce conseil, on choisit. Et on passe à l'impérium. Bon. Ceci, c'est la prudence qui porte sur le conseil, le choix l'impérium. Saint Thomas ne parle jamais d'une prudence qui porte sur l'intention. Ça, jamais. Si vous regardez bien dans Saint Thomas, vous ne verrez pas cela. Alors que, il me semble, que si je reviens à ce que nous avions dit au point de départ, que l'amour d'amitié, qui est l'expérience première, par où toute ma philosophie morale peut se construire. Quand il s'agit de l'amour d'amitié implique nécessairement un premier amour. Ce premier amour, il s'impose à moi. Il n'est pas libre. Pourquoi j'aime telle personne et telle autre personne? Bon, les philosophes ont dit les atomes crochus, ça n'explique rien du tout. Hein, parce que vous ne voyez pas les atomes crochus, ça n'explique rien du tout. C'est un fait. Très, très mystérieux. Ça reste très mystérieux. Ça reste quelque chose de tout à fait premier, de fondamental. Il y a un appétit naturel qui me porte vers ce bien spirituel qui est la personne. L'enfant, naturellement, se porte vers sa mère. Là, on pourra dire qu'il y a une connaturalité. Vis-à-vis d'amis, c'est différent. Il y a une connaturalité aussi, c'est sûr. On la reconnaîtra après. Mais au point de départ, on ne la voit pas. Mais c'est sûrement une connaturalité foncière qui fait que j'aime telle personne et pas telle autre. Connaturalité ou complémentarité. Parce que quelquefois, c'est justement, on aime ce qui, pour nous, est le plus complémentaire. Ce qui est en connaturalité est plus complémentaire, donc où la connaturalité joue moins. Bon, peu importe ses explications, c'est un fait qui a cet amour fondamental et premier. Cet amour, je suis libre de l'accepter ou pas l'accepter. Et dans la mesure où je l'accepte, il devient ma femme. Donc il y a une première liberté ici. Qu'est-ce que j'avais dit ? Liberté d'acceptation ou de refus. Donc c'est ce qu'on appelle la liberté d'exercice. Point de vue scolastique. C'est bon de nous avoir, c'est nous avons le fait d'accepter ou pas accepter. C'est la liberté fondamentale, cette liberté. Et elle joue à ce niveau-là. Et je disais qu'il fallait comprendre qu'à ce niveau-là, il y a un aspect de prudence qui joue. Une prudence très, très fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien se faire que cet amour puisse être corrompu par l'imaginaire ou par la passion, mais surtout l'imaginaire. Et alors il devient un amour velléitaire. Et il y a quelque chose qui ne fait plus une intention de vie. Et donc, on ne passe jamais du bien à la fin. Et donc, il y a un acte de prudence qui joue là. Ça me semble net. Il y a l'intelligence qui doit être capable de pouvoir évaluer la qualité de cet amour par rapport à ce que je suis, comme un amour qui porte sur le bien, qui est capable de me finaliser. Donc il y a là l'intervention de l'intelligence. C'est du reste assez compréhensible, parce que le passage de l'amour à l'intention implique justement une transformation de cet amour par l'intelligence. Il y a un ordre. Dès qu'il y a un ordre, c'est l'intelligence qui intervient. Tout de suite. Or, la différence entre ce premier amour et l'intention, c'est l'ordre. C'est cet amour qui prend possession, qui mobilise toutes mes forces et les ordonne vers une fin. Et donc, il y a bien là intervention de l'intelligence pratique qui doit être perfectionnée par la prudence pour que justement cet amour ne se laisse pas corrompre par le point de vue imaginaire. Alors la prudence joue là. Et je crois que c'est là où la prudence est sagesse. Autrement, je n'expliquerai pas comment la prudence est sagesse. Si la prudence ne joue qu'au niveau du choix et de l'impérium, elle n'est pas sagesse. Or, tous les anciens ont toujours dit que la prudence est une sagesse pratique. C'est une sagesse pratique, la prudence. Elle a une noblesse, une grandeur étonnante. Et alors, il faut bien qu'elle porte sur la fin pour être une sagesse pratique. Et quand il s'agit du choix des personnes, de mes collaborateurs, de mes amis, il y a un choix de personnes. Et ce choix de personnes, c'est justement ce qu'il y a de plus prudent à ma vie. Il y a des gens qui, toujours, prennent leurs collaborateurs d'une façon qui n'est pas prudente. Ça existe. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, on voit très bien qu'il y a des grandes imprudences. Et ce sont les plus grandes imprudences. Choisir comme collaborateur des gens qui vont torpiller, c'est évidemment un manque de prudence. Ça prouve que vous n'avez pas évalué exactement la qualité de cet amour. Alors évidemment, vu de l'extérieur, je pourrais dire, oui, Jésus a manqué de prudence en choisissant Judas. Comme collaborateur, c'était quelqu'un. Il a torpillé. C'est sûr, c'est évident. Vu de l'extérieur, en pur philosophe, je dirais quand même, là, je ne comprends pas. Comment un sage qui choisit 12 disciples pour les former, parmi ces 12, il s'est trompé. Alors qu'il y avait quelques petits événements qui montraient bien. Il a eu un moment d'intuition juste quand il a dit, au milieu de vous, il y a un démon là, il s'est juste. Il aurait dû aller jusqu'au bout. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé l'impérium. Il a pas envie, il a freiné, il est arrêté, il s'est dit, une douille, il y a un démon, qui comprenne, qui s'en aille, moi je ne veux pas le mettre à la porte. Donc il a manqué de sagesse. C'est très important, parce que c'est quand même un fait magistral, ça, extraordinaire. On essaiera de comprendre, hein. On essaiera de comprendre. C'est un fait. Bon, alors, je veux montrer que la prudence joue au niveau de l'intention et joue au niveau du choix. Le choix vis-à-vis de l'intention porte sur la vie. Je choisis mon ami. Bon, je dis, je choisis mon ami au milieu d'une quantité d'autres, en préférence à une quantité d'autres. Est-ce que la préférence à l'égard d'une quantité d'autres spécifie le choix ? Non. Le choix n'est pas spécifié par la préférence par rapport aux autres. Heureusement. Parce qu'autrement, votre choix serait relatif aux autres. Alors que voulez-vous, je n'avais que deux à choisir. Alors j'ai choisi. C'est ce qu'on dit habituellement, psychologiquement. Je choisis le moindre mal dans les votes politiques. C'est toujours comme ça. Il y a plusieurs listes électorales, vous choisissez. Aucune ne me plaît. Donc je n'en choisis aucune. Mais je vote quand même. Oui. En réalité, il n'y a pas de choix. Dans le choix du moindre mal, il n'y a pas de choix. Il faut bien faire ça. Je fais ça parce qu'il vaut mieux faire ça que de laisser sans rien faire. Mais il n'y a pas de choix. Le choix porte sur l'ami. C'est l'ami qui spécifie mon choix. Et c'est l'ami qui spécifie mon choix. Voilà. Parce que le choix parle. L'ami n'est pas choisi comme un moyen. Je ne dis pas que l'ami est choisi comme un individu par rapport aux autres. Non, il est choisi comme ami. Il est choisi comme ami. Alors je pourrais dire quelque chose de juste. Ici, c'est la personne. La personne seule. Ici, c'est l'individu. Alors je maintiens la distinction individu et personne, tu vois, à la manière maritaine. Et dire au fond, entre les deux, il y a la personne, l'ami est une personne, c'est un absolu, c'est mon bien, l'ami est un individu, alors un individu au milieu des autres. J'ai choisi comme individu. Ah non, je ne crois pas du tout, je choisis l'ami comme une personne. Et je le choisis en tant qu'il est une personne, pas en tant qu'il est un individu. En tant qu'il est une personne, en tant qu'il est capable d'être mon bien, et je le choisis. Alors, le choix va mettre une qualité nouvelle au point de vue de l'amour, une qualité nouvelle par rapport à l'intention de vie. C'est qu'il y a une plus grande liberté. Là, c'est la liberté d'acceptation. Là, il y a une liberté plus grande. Je le choisis. Alors, pour que le choix amical soit un véritable choix amical, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je sache que l'autre lui-même m'aime et me choisit. C'est là où il y a quelque chose de particulier dans le choix. Dans l'intention de vie, pour qu'il soit ma fin, ce n'est pas nécessaire que je sache qu'il me choisisse. Tandis que pour le choisir vraiment amicalement, il faut la réciprocité. Un choix amical présuppose la réciprocité. Et donc je choisis l'ami en tant qu'il me choisit. C'est en tant qu'il m'a choisi que j'accepte son choix et que je réponds à son choix. Vous voyez ? Tandis qu'au contraire, comme intention, c'est uniquement porté sur l'ami en tant qu'il est mon bien, en tant qu'il est capable de me finaliser. Le choix présuppose que lui-même me choisit. Et donc, c'est l'ami qui me choisit, qui est choisi par moi. Et il y a cette réciprocité. Et dans cette réciprocité, il y a donc un exercice de liberté tout à fait nouveau. C'est lui qui m'a choisi et c'est moi qui le choisis. Et c'est cette réciprocité du choix qui donne le caractère particulier à ce choix. Puis alors enfin, l'imperium, l'exécution, la finalité commune. Il faut réaliser quelque chose ensemble. Il faut vivre ensemble. C'est ça l'imperium. Je sais, il y a une conscience, je connais ça. Ses sentiments, je connais son choix, et là, nous exécutons. On passe à l'exécution. L'exécution, c'est aussi une liberté. Trois types de liberté. Hein. Trois modalités de liberté. Et chaque fois, la prudence intervient. Bon. Je n'insiste pas plus, mais c'était bien de marquer une petite question comme ça. Il y a une autre question. Ne peut-on pas dire, au niveau théologique, que ce qu'on appelle un manque de réalisme spirituel est en fait un manque de prudence dans notre foi au niveau du choix? Nous allons y revenir, ça. La question est posée, elle est bien posée. Alors nous allons revenir là-dessus. Bon, ici, c'est la prudence au niveau philosophie, au niveau éthique de l'amour d'amitié. Et je vois que la prudence, c'est la clé qui me permet vraiment de choisir mon ami, de faire que mon ami devienne l'intention de ma vie et de dire que j'exécute prudemment. Et la prudence est nécessaire. Elle est sagesse de vie. La prudence est une sagesse de vie, une sagesse pratique. Je peux maintenant essayer d'expliquer pourquoi saint Thomas, en théologien, n'explicite pas du tout ce lien de la prudence avec l'intention de vie. Et pourquoi saint Thomas, qui pourtant connaît bien Aristote ne développe pas non plus très fort ce point de vue. Développe surtout du côté de la liberté et de l'attention. Et je crois que nous devons le développer. Nous devons le développer parce que nous sommes partis d'une éthique de l'amour d'amitié. Et donc c'est très important de comprendre comment la prudence joue pleinement dans le choix de l'ami et dans l'ami choisi comme mon bien. Pourquoi saint Thomas, en tant que théologien, ne regarde pas la prudence au niveau intention. Il la regarde qu'à ses deux niveaux. Alors, pour bien comprendre cela, il faut essayer de saisir que l'éthique, nous l'avions dit au début de l'année, et c'est bon de le reprendre maintenant. L'éthique, si je l'analyse au point de vue philosophique, elle a trois niveaux. Elle a ce premier niveau. L'éthique au niveau humain. L'homme face à l'homme. L'homme face à l'homme est responsable de l'homme. Et cette responsabilité apparaît pleinement et souverainement dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, je suis responsable de mon ami. Et mon ami est responsable de moi. Et donc, c'est là où se fait le premier lien, le lien le plus fort entre l'homme et l'homme. Et donc, l'éthique, au niveau proprement humain, elle commence à naître au niveau de la bonne amitié. Deuxième niveau de l'éthique. L'éthique religieuse. Je crois qu'il y a un niveau, on le verra, je le prends ici simplement au niveau prudentiel, pour expliquer la position de saint Thomas. Alors, l'éthique religieuse, c'est l'homme qui découvre son créateur. Philosophiquement, l'homme peut découvrir son créateur. Et à partir du moment où l'homme découvre son créateur, il y a une nouvelle dimension de responsabilité. Il doit avoir vis-à-vis de son créateur l'attitude normale, l'attitude humaine qu'il doit avoir, c'est-à-dire l'attitude de la créature. La créature doit adorer. Alors, je me pose la question, dans une attitude d'éthique religieuse, il y a une dimension nouvelle qui est l'adoration et d'une certaine manière la contemplation. Je peux adorer et contempler Dieu, le Créateur. Par le fait même, la prudence va jouer, toujours la prudence qui vient qualifier mon intelligence pratique, va avoir une nouvelle extension. il est souverainement prudent pour moi d'adorer Dieu. C'est mon devoir principal et primordial, puisque c'est par l'adoration que je suis dans la vérité. Et ça, c'est la prudence qui me montre ça. Et j'ai nécessairement là la prudence qui me montre cela, voyez, qui relativise l'homme et qui montre que l'homme, en tant que créature, est totalement relatif au Créateur, totalement dépendant, et qu'il doit reconnaître cette dépendance. Et la prudence me montre donc que ce qui finalise ma vie en tant que créature, c'est de remonter à Dieu, c'est d'être relié à Dieu par l'adoration et la contemplation. Même si très peu de philosophes le disent, c'est pas parce que très peu le disent que ce n'est pas vrai. C'est pas un critère, savoir s'il y en a beaucoup. C'est le fait, c'est que l'homme est capable de découvrir sa dépendance à l'égard de Dieu, et découvrant sa dépendance à l'égard de Dieu, il reconnaît ce devoir primordial d'adorer et de contempler. Par le fait même qu'il y a cette nouvelle dimension, l'amour d'amitié va prendre une nouvelle dimension. Puisque l'amour d'amitié n'est plus ce qui finalise d'une manière absolue. L'amour d'amitié finalise, mais en dépendance de l'adoration et de la contemplation. Autrement dit, l'ami est considéré lui-même comme une créature. Et donc, l'ami n'est parfaitement lui-même que s'il adore et contemple. C'est bien évident. Je considère que l'ami n'est mon bien que si lui-même adore et contemple. C'est pour ça que quand il s'agit d'une éthique religieuse, vous voyez, dans quelle mesure l'homme religieux, peut-il avoir un ami au sens absolu vis-à-vis de quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu? Quelqu'un qui serait athée et qui dirait ouvertement qu'il est athée. Il serait obligé de reconnaître que son amitié ne peut pas aller jusqu'au bout. Et donc, à l'intérieur même de son amitié, il y a une limite. Puisque son ami ne sera parfaitement lui-même que s'il est finalisé en remontant. Il ne sera un homme parfait que s'il remonte jusqu'à Dieu. Je crois que nous avons tous senti ça si nous avons eu des amis qui étaient athées. On sent qu'il y a une limite, même à l'intérieur même de l'amitié. Pourquoi ? Parce que l'amitié est relativisée par le point de vue de l'adoration et de la contemplation. Je n'ai pas le droit de dire « Ah, l'amour d'amitié est un absolu au point de vue humain, peu importe le point de vue religieux. » Pas du tout. Parce que le point de vue religieux est une dimension essentielle à l'homme. Et donc, si j'aime mon ami comme ami, et je veux qu'il soit parfaitement homme, autrement, je ne peux pas l'aider pleinement. Si lui-même est une limite à sa taille d'homme, ne reconnaissant pas ce qu'il doit être comme homme, c'est-à-dire n'adorant pas être content et ne contemplant, ne vivant pas de l'adoration et de la contemplation, il y a une limite. Donc vous voyez que la prudence va jouer là. Elle va jouer pour me donner cette lucidité par rapport à ce fait que mon ami, que j'aime humainement parlant, je l'aime, il est merveilleux, il a des qualités extraordinaires, je suis désolé, il n'arrive pas à la dimension religieuse. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est que Dieu. Et donc, en lui-même, il y a une espèce d'exaltation de lui, sans qu'il le sache, du reste. C'est pas formellement l'orgueil, mais matériellement, c'est l'orgueil. Et donc, il y a quelque chose qui m'arrête. Je ne peux pas l'aimer autant que je voudrais l'aimer. Alors que quand j'ai comme ami quelqu'un qui lui-même peut communier profondément dans l'adoration et la contemplation, ah, il y a une unité beaucoup plus profonde qui se fait. Je peux l'aimer profondément parce qu'il y a cette adoration et cette contemplation. Quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors vous voyez que la prudence va jouer d'une façon nouvelle. Il y a un élément nouveau de la prudence. Et l'élément nouveau de la prudence joue par rapport à l'adoration et la contemplation. Troisième point. Nous y reviendrons dessus. Je le souligne simplement, parce que c'est intéressant, à propos de la prudence, de voir que la prudence elle-même va avoir différents aspects. Une prudence au niveau éthique proprement elle-même, une prudence au niveau éthique religieuse, et puis il y a l'éthique chrétienne. Ici, je ne veux pas entrer dans certaines distinctions qui seraient intéressantes à voir. Quand je parle d'éthique chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est la théologie morale? Est-ce que l'éthique chrétienne, au moins vous pouvez poser la question. Pour ceux qui ont fait de la théologie morale, ça dit quelque chose. Pour les autres, pas grand-chose. Mais ça ne veut rien, n'est-ce pas? La théologie morale, c'est ce que Saint Thomas nous fait dans la somme. Il fait une théologie morale. Alors, est-ce que l'éthique chrétienne est adéquate à la théologie morale? Très gros problème. Vous savez, Gilson parle d'une philosophie chrétienne. En réalité, la seule philosophie chrétienne qui existe, c'est au niveau éthique chrétienne. Alors là, il y a une éthique chrétienne. Et là, vous pouvez dire philosophie chrétienne. Tandis que vous ne pouvez pas parler au sens rigoureux d'une métaphysique chrétienne. Ça va pas. Vous ne pouvez pas parler au sens rigoureux d'une critique chrétienne. Vous ne pouvez pas parler d'une cosmologie chrétienne, d'une mathématique chrétienne. Ça va pas. Vous pouvez dire que le triangle supérieur, c'est la très sainte Trinité. Et alors à partir de là, vous voyez tous les autres triangles. Vous voyez, mais ça, ce serait très mauvais. C'est très mauvais, ça ne va plus du tout. Mais vous pouvez parler de l'éthique chrétienne. Alors, dans l'éthique chrétienne, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que vous regardez le point de vue d'amour d'amitié. L'amour d'amitié au niveau charité. Il y a une nouvelle relation de l'homme avec l'homme. Et cette nouvelle relation de l'homme avec l'homme, c'est la relation du chrétien avec le chrétien, dans le Christ. Et donc, cette relation d'amour d'amitié dans la charité, elle est dans le Christ. C'est le Christ qui nous les amis, c'est-à-dire les chrétiens. Nous sommes liés les uns aux autres dans le Christ. Et c'est l'exercice propre de la charité chrétienne, de la charité fraternelle. Cette charité fraternelle s'exerce de cette manière, elle s'exerce dans le Christ. Cette charité fraternelle qui s'exerce dans le Christ va impliquer une prudence. Une prudence transformée par la foi, qu'on va appeler prudence infuse. Alors, comprenons bien ici. C'est complexe, hein? Si on veut regarder au point de vue philosophie chrétienne. Je dois regarder, au point de vue philosophie chrétienne, que l'amour d'amitié, la charité fraternelle, est au-delà de la prudence. Puisque elle est théologale. Il n'y a pas deux vertus différentes, l'agapé par rapport à Dieu et l'agapé par rapport aux hommes. Il n'y a pas deux vertus différentes, la charité par rapport au Père et la charité par rapport à mes frères. C'est la même charité, donc elle est théologale. Si elle est théologale, elle est au-delà de la prudence. C'est sûr. La charité fraternelle a un absolu. au-delà de toute prudence. Et la prudence consiste à se taire par rapport à l'agapé. C'est-à-dire reconnaître que l'agapé a sa mesure en elle-même. Et ça, c'est très curieux. Et c'est très intéressant de voir que la charité fraternelle en elle-même a sa propre mesure. Et l'amour divin. Et donc, la prudence infuse, consiste d'abord à laisser passer devant les vertus théologales. Si je suis prudent divinement, c'est-à-dire d'une prudence infuse, si je suis prudent divinement, je dois laisser libre cours aux vertus théologales. Vouloir, en quelque sorte, mettre au-delà des vertus théologales une prudence, ce serait souverainement imprudent. Puisque les vertus théologales en elles-mêmes ont un objet qui dépasse toutes les vertus morales. Donc ça, c'est très important, c'est souligné. Vous ne pouvez pas dire ça ici, au point de vue de l'éthique humaine. Très curieux. Il y a l'amour qui est au-dessus. Oui, l'amour est premier, c'est vrai. Voilà la seule analogie. L'amour est premier. Mais dès que j'ai le domaine de l'intention, la prudence intervient en respectant pleinement la fin. Elle ne me donne pas la fin, elle la respecte, mais elle me met en liaison avec la fin. En l'acceptant, la fin de rayonner sur moi. Donc il y a quelque chose d'analogue. Tout ce qui vient du bien, tout ce qui vient de la fin, est d'une certaine manière au-delà de la prudence. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que quand il s'agit de l'éthique proprement humaine, la prudence consiste à ne pas mettre de veto, de dire oui, vous pouvez aimer cette personne, c'est bien, c'est votre fin. Donc on ne met pas de veto. Elle suspend le veto. Elle pourrait en mettre. Tandis que quand il s'agit de la charité divine, la prudence infuse ne peut jamais mettre de veto. Puisque cet amour divin, il est toujours bon. Il s'impose à nous. Donc il est toujours bon. Et donc la prudence infuse doit se taire. Vous voyez, donc la prudence, très important ça, parce que ça explique l'attitude de saint Thomas. La prudence infuse doit se taire par rapport à l'amour d'amitié, parce que l'amour d'amitié a son propre objet, son propre exercice, puisque c'est les dons du Saint-Esprit. C'est les dons du Saint-Esprit qui donnent l'exercice divin de la charité fraternelle. C'est les dons du Saint-Esprit. C'est la charité fraternelle s'exerce grâce aux dons du Saint-Esprit, et non pas grâce à la prudence. Alors il y a le don de conseil. Il y a le don de conseil qui vient transformer, surnaturaliser la prudence pour permettre. Alors le don de conseil intervient dans l'exercice de la charité fraternelle. Très bien, mais c'est le don de conseil, c'est plus la prudence. Alors, le don de conseil intervient au niveau de l'exercice de la charité fraternelle. Mais au niveau de la vie commune, la vie commune, je vous l'ai dit plus d'une fois, n'est pas identique à la charité fraternelle. La vie commune, c'est l'incarnation de la charité fraternelle. Mais ce n'est pas la charité fraternelle. La charité fraternelle est un mystère qui me dépasse et qui nous dépasse tous. La vie commune n'est pas un mystère. Il suffit de mettre le petit doigt dans la vie commune pour s'apercevoir que ce n'est pas un mystère. Si on veut dire c'est un mystère, oui, c'est un mystère de souffrance, mais c'est pas un mystère, c'est un mystère extraordinaire un laboratoire où on se purifie, c'est très très juste, mais c'est pas un mystère la vie commune. La vie commune, on sait très bien qui nous marche sur les pieds, on sait très bien qui veut nous dépasser au tournant, on sait très bien qui, au contraire, est d'une amabilité extraordinaire, merveilleuse, auquel c'est tellement agréable de travailler avec lui, parce que il est toujours prévenant La vie commune n'est pas un mystère. Eh bien, l'incarnation, le passage de la charité fraternelle à la vie commune, va faire intervenir la prudence infuse. Ça, c'est sûr. La prudence infuse intervient au niveau du passage de la charité fraternelle à la vie commune. Vous voyez bien ce que je veux dire, la vie commune. La vie commune implique qu'il y a un règlement. La vie commune implique qu'il y a une cloche, hein, qui sonne. C'est un ordre de la vie commune, ça. La vie commune implique qu'à telle heure, il y a les prières, à telle heure, il y a le repas, à telle heure. C'est pas la charité fraternelle, point de vue de la vie de la charité fraternelle. On est très libre, il y a une liberté dans la charité fraternelle qui est merveilleuse. Elle s'incarne dans une vie commune. Et la vie commune implique un règlement de vie. On ne peut pas vivre à plusieurs ensemble sous le même toit sans un certain minimum de règlement. Pour moi, sauver autant que possible la même heure. Parce que s'il y a un zigoto qui se lève tous les jours, une heure plus tôt, en faisant marcher les douches, ça ne va plus. Alors, réveiller tout le monde, ou avec un gros réveil énorme qui fait que tout le monde entend ce réveil. C'est la vie commune. La charité fraternelle, elle est au-delà du temps. Elle est dans l'éternité. C'est vrai, elle est éternelle. La vie commune n'est pas éternelle. Heureusement. La vie commune n'est pas éternelle. Le règlement de vie n'est pas éternel. Il n'est pas sacré. C'est un règlement de vie, très bien, qui est l'œuvre d'une prudence infuse. C'est la prudence infuse qui impose un règlement. C'est une prudence infuse, c'est l'œuvre de la prudence infuse qui intervient au niveau de la vie commune et qui est là pour permettre à plusieurs de vivre ensemble. C'est une chose assez extraordinaire. À plusieurs de vivre ensemble et d'être quand même heureux. Et chez quoi Yukundu. N'est-ce pas? Comme c'est bon, habitare fratres et nounoum, hein, le jour de la profession, le jour de la prise d'habit. Comme il est heureux entre frères d'habiter ensemble. C'est le psaume qui dit ça. Et c'est vrai, c'est très vrai. Il y a beaucoup de joie dans la vie commune. Il y a beaucoup de joie. La joie provient de la charité fraternelle qui transforme la vie commune en un lieu où on pourra exercer parfaitement la charité fraternelle. Mais le rythme de la vie commune repose sur la prudence. C'est pour ça que le passage de la charité fraternelle à la vie commune implique la prudence infuse. C'est au niveau de l'impérium. C'est au niveau de l'impérium. Ça, c'est très très net. C'est l'impérium, c'est-à-dire le passage, voir comment je vais exercer ma charité fraternelle à côté de celui qui est à côté de moi. Comment nous allons l'exercer ensemble? Comment nous pourrons vivre ensemble et être heureux de vivre ensemble en se respectant? Et en respectant le plus qu'on peut. En sachant très bien que s'il n'y a pas ce respect, il n'y aura pas de vie commune possible. Donc ça, c'est un problème de prudence infuse. Vous voyez comme c'est différent. Alors, est-ce que la prudence infuse va jouer au niveau de la charité fraternelle, au niveau du choix? Numéro 1, 2, 3. Au niveau 3, vie commune. Ça, c'est très net. Est-ce que le choix va intervenir? Oui, la prudence va intervenir au niveau du choix. Telle personne que j'aime d'une charité fraternelle très intense, réelle, dans le Christ, je dis, ah, c'est impossible de vivre avec. Lot et Abraham, ils s'aimaient beaucoup. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Ça, c'est l'exemple le plus merveilleux pour dire non, non, pas de vie commune ensemble, c'est impossible. Le bétail est trop nombreux, c'est impossible. C'est impossible. Alors, on se dispute trop tout le temps. Et puis nos époux ne s'entendent pas, c'est impossible. Donc c'est absolument impossible. Là, on n'a pas les mêmes goûts. Alors on sera tout le temps les uns contre les autres. Il vaut beaucoup mieux maintenir la charité fraternelle à distance. Et la charité fraternelle, à ce moment-là, s'exerce de façon merveilleuse, intérieurement. mais ne s'exerce pas dans la charité, dans la vie commune. Dans la vie commune, il sera tout le temps des heures. Oui. Donc il y a un choix par rapport à la vie commune. Il y a un choix. Y a-t-il un choix par rapport à la charité fraternelle? C'est le prochain qu'on trouve sur la route. Hein, c'est toujours comme ça. Ça a été celui sur lequel je me suis heurté. Impossible autrement. Autrement, je ne serais pas évangélique. Je ne peux pas le regarder, celui-là. Je ne peux pas le regarder pour la vie commune. Mais je, dans la charité fraternelle, je suis obligé, il s'impose. Le prochain s'impose. Je ne peux pas le refuser. Donc, il n'y a pas de choix au sens absolu. Il n'y a pas de choix prudentiel. Il y a un choix divin au-delà de la prudence. C'est très important de comprendre ça. C'est très, très important. Dans la charité fraternelle, je choisis ce que Dieu met sur ma route. Et je sais quelquefois que c'est souverainement imprudent. Et vous avez dit, surtout pas de vie commune, hein, surtout pas. Parce que ça, c'est du matin au soir, on serait là. J'ai un caractère de chien. Je suis tout de suite aperçu. J'ai tout de suite aperçu que j'ai un caractère de chien. C'est impossible, impossible. Pour pas une vie commune. Vous voyez ? Alors, je choisis pour me mettre en dehors de la vie commune. Vous voyez donc que la prudence, au point de vue du théologien, elle joue au niveau du choix et de l'impérieux. Donc, au niveau éthique chrétienne. Elle ne joue pas au niveau de l'amour d'amitié divin. Il faut y réfléchir là-dessus, parce que c'est important.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus